Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
François Claus.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les carnets du monde. Au sommaire de notre tour du monde ce dimanche, Gaza. 2 millions d'habitants, enclave palestinienne, sous le double joug du Hamas et du blocus israélien depuis 13 ans. Certains depuis 1948, d'autres depuis 1967, n'attendent qu'une chose, rentrer chez eux, sur leur terre, en Palestine, dans un État souverain. Un rêve brisé par la présentation du dernier plan de Donald Trump. Entre rage et résignation, reportage dans un instant à Gaza. Ils ont tout juste 20 ans, ils sont la génération Erasmus, ouverte sur le monde. Ils se retrouvent dans une île bordée de nouvelles frontières, 10 jours après le Brexit. Reportage au cœur de cette jeunesse anglaise qui va devoir vivre et assumer le choix électoral de ses aînés. En Allemagne, il y eut le Atom Nein Danke des années 70. Voilà en 2020 le Kohl Nein Danke. Les militants verts et la jeunesse allemande qui s'attaquent aux symboles de l'industrie allemande. Mais qu'est-ce qui se joue derrière cette guerre du charbon ? Hélène Kohl dans les carnets du monde. Et puis pour terminer, un voyage inédit, détendant, au pays de la bande dessinée. Une semaine après la clôture du festival d'Angoulême, voyage au cœur du monde arabe où la bande dessinée créative et foisonnante a su accompagner les printemps de 2011 et le Irak algérien. Comme tous les dimanches, Nicolas Caro, un livre dans le monde, direction le Texas. Et pour finir, les réflexions toujours pertinentes de Joseph Chovanec, le désir de nomadisme qui nous habite tous. Avec une pensée, bien sûr, particulièrement affectueuse pour Sophie Larmoyer, qui a créé et qui incarne la doyenne des émissions d'Europe 1 sur l'antenne et que vous retrouverez dans 2 semaines. Voilà pour le sommaire, c'est parti.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Ce fut un moment de diplomatie totalement surréaliste. C'était il y a 2 semaines à Washington, à l'East Room de la Maison-Blanche, salué par un tonnerre d'applaudissements. Donald Trump venait tout simplement de présenter son plan de paix pour résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Un document de 180 pages qui balait d'un trait de plume 70 ans de diplomatie et de résolution onusienne. Jérusalem, capitale une et indivisible de l'État juif, les colonies reconnues, contrôle israélien sur la vallée du Jourdain, abandon du statut de réfugié pour ces Palestiniens qui, depuis la guerre de 1948, espèrent retrouver une terre. À Gaza, 2 millions d'habitants, où l'on vit depuis 13 ans sous le double joug du Hamas et du blocus israélien, entre colère, humiliation et désespoir. Reportage pour les carnets du monde, signé Clotilde Mrafko.
À Jabalia, dans le nord de Gaza, la mer est à quelques dizaines de mètres. Mais impossible de l'apercevoir, un océan de béton barre l'horizon. Dans les étroites ruelles de sable entre les immeubles, des enfants jouent et traînent des pieds dans des sandales un peu trop grandes. Sur les murs derrière eux, des portraits d'hommes en armes, des Palestiniens du quartier tués par des Israéliens. Watan Abou Safia a grandi ici. Le camp de Jabalia est le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. 114 000 personnes y vivent, sur moins d'un kilomètre carré et demi. Ici, c'est la cuisine. Aujourd'hui, l'électricité est revenue dans l'après-midi. Désolée, je fais la vaisselle seulement maintenant, mais on n'avait pas d'eau non plus ce matin. Quelques heures d'électricité par jour, pas d'eau potable. Watan, 24 ans, a grandi avec le blocus israélien. Depuis plus de 13 ans, Gaza vit coupé du monde. Sur l'un des murs du salon, la famille a accroché une broderie. La carte de ce qui correspond aujourd'hui au territoire palestinien et à Israël.
Non, ça c'est la Palestine. Israël n'existe pas, c'est comme ça notre carte. Je suis née réfugiée. Mes ancêtres ont élevé notre génération dans l'idée que nous sommes de Hammamé.
Hammamé, 1948. À la création d'Israël, les grands-parents de Watan fuient la guerre et se réfugient 24 km plus loin, à Gaza. Aujourd'hui, leur village n'existe plus, ses terres sont en Israël, Watan n'a jamais pu y aller. La jeune femme s'accroche au droit au retour des réfugiés palestiniens reconnus par l'ONU. Donald Trump voudrait aujourd'hui le supprimer.
Non, on ne capitulera pas sur notre droit au retour. On ne cédera pas. Hammamé est à nous, toute la Palestine est à nous.
En attendant ce droit au retour qu'il aurait refusé depuis plus de 70 ans, les Gazaouis se posent la question de partir, émigrer, pour ne plus subir les privations.
Au centre de Gaza, l'hôpital Al-Shifa est le plus grand de l'enclave. Il est complètement débordé.
Je fais tout ici, docteur, artiste, assistant social, tout, tout.
Sur un coin de bureau en bois, le docteur Shadi Awad tamponne des ordonnances à la chaîne, puis file en consultation.
Bonjour madame, respirez par la bouche, comme ça. Encore. À cause du blocus, certains médicaments sont difficiles à trouver. Parfois, on appelle les autres hôpitaux des hôpitaux privés pour essayer de s'en procurer parce que ça met la vie des patients en danger.
Depuis plus de 2 ans, ce père de 5 enfants ne reçoit plus que 75% de son salaire. 3000 shekels, un peu moins de 800 euros par mois.
Plusieurs fois, j'ai été sur le point d'émigrer. Et puis j'ai renoncé. Gaza est tellement belle. Bien sûr, ce serait plus raisonnable de quitter ton pays et cette vie si difficile. Mais en tant que docteur ici, tu es un combattant, un résistant.
Près de 70% des jeunes Gazaouis sont au chômage. Sur le campus d'Al-Isra, l'une des 10 universités de l'enclave, beaucoup savent que leur diplôme ne leur servira à rien ici. Voile vert et tunique brune, Mariam, 21 ans, explique que c'est un passeport pour l'émigration et pour le futur de Gaza.
Ceux qui sont partis, ils reviendront. Beaucoup de jeunes éduqués, et ils sont nombreux, vous savez, en Palestine, émigrent, mais ils reviendront.
Pourquoi ? Les larmes aux yeux, l'étudiante en sciences politiques emprunte les vers du poète Mahmoud Darwish, héros de la résistance palestinienne.
Sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, la mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine et nous ajoutons, elle continuera à s'appeler Palestine.
Elle en est sûre. Le plan de Trump est une défaite, mais à Gaza, les Palestiniens n'ont toujours pas le sentiment d'avoir définitivement perdu la guerre. Gaza, Clotilde Mravko, Europe 1.
Et on vous retrouve, Clotilde, du côté de Jérusalem, maintenant où vous êtes rentrée. Espère ne pas perdre la guerre pour certains Palestiniens, disiez-vous. Le plan Trump, malgré tout, vient briser de nombreux espoirs.
Oui, avec ce plan, les Palestiniens perdent sur quasiment tous les tableaux. D'abord parce que l'initiative ouvre la voie à l'annexion des colonies israéliennes et à l'annexion de la vallée du Jourdain. Ça laisse aux Palestiniens un petit bout de Cisjordanie complètement morcelé, ce que les Palestiniens appellent en rigolant un gruyère suisse qui serait relié par un tunnel à Gaza. Donc géographiquement, ça ne donne pas vraiment un État palestinien viable. Et puis ça appuie aussi la décision de Donald Trump il y a 2 ans de reconnaître Jérusalem, l'ensemble de Jérusalem, comme la capitale d'Israël. Et donc ça annihile complètement le rêve des Palestiniens d'avoir un État avec Jérusalem-Est comme capitale. Et puis enfin, ça annule le droit au retour des réfugiés palestiniens de 1948 et 1967. Or, on l'a vu avec Watan dans le reportage, c'est une demande essentielle aux yeux des Palestiniens. Elle a été reconnue plus d'une centaine de fois par des résolutions de l'ONU.
Alors, on l'a compris dans votre reportage, ça a été un véritable choc côté palestinien, un rejet immédiat de la part de l'autorité palestinienne. Mais est-ce qu'ils ont obtenu au moins quelques contreparties dans ce plan américain, les Palestiniens, Clotilde ?
Eh bien, ce que dit Donald Trump, c'est qu'il y a une grande contrepartie à son plan, 50 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans pour les Palestiniens. Il explique qu'il voudrait faire de Gaza une nouvelle Singapour. Ça fait rire les Palestiniens, évidemment. Ils disent que c'est un businessman, mais ils disent aussi que Jérusalem n'est pas à vendre. Ils savent aussi que cet argent ne leur profiterait pas uniquement à eux, puisque l'économie palestinienne est complètement dépendante d'Israël. Les 50 milliards ne seraient versés, en tout cas, que si les Palestiniens acceptent toutes les conditions du plan. Évidemment, pour l'instant, la réponse des Palestiniens est claire, c'est non.
Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des réactions violentes ? On a senti une part de résignation dans votre reportage à Gaza et en même temps des manifestations qui sont apparues. Il y a eu une première victime du côté de ces manifestations. Est-ce qu'on doit redouter le pire en termes de réaction palestinienne ?
C'est difficile à dire, mais c'est la résignation qui domine. Il y a certes quelques tensions dans l'air. 3 attaques jeudi contre des soldats et des policiers israéliens à Jérusalem et en Cisjordanie. Des manifestations où plusieurs Palestiniens ont été tués en Cisjordanie également. Et puis des tirs de roquettes toute la semaine depuis Gaza. Mais à Gaza, en fait, les Palestiniens ont déjà manifesté pendant 1 an et demi. Le résultat, c'est qu'il y a eu presque 300 morts et qu'ils n'ont pas vraiment obtenu d'avancée, notamment dans la levée du blocus. Donc les Palestiniens le savent, manifester, faire des attentats, c'est dangereux pour eux. Et puis la plupart des Palestiniens de Cisjordanie disent qu'en fait, de facto, le plan Trump est en fait déjà installé sur le terrain en Cisjordanie. C'est comme si les colonies avaient déjà été annexées.
Alors c'est d'une certaine manière très clairement l'échec quand même de la stratégie de l'autorité palestinienne qui était celle de la négociation. Mahmoud Abbas a confirmé qu'il irait devant l'ONU à New York lundi, mais on sent également que le soutien arabe classique aux Palestiniens, eh bien ce front s'effrite douloureusement pour les Palestiniens.
Oui, c'était une des grandes déceptions lors de l'annonce du plan Trump. Il y avait 3 représentants des pays arabes avec Donald Trump à Washington, un représentant pour Oman, pour le Bahreïn et pour les Émirats arabes unis que le président américain a remercié. Et puis, il y a eu des réactions assez tièdes, à part la Jordanie qui a complètement rejeté l'initiative américaine. L'Égypte a notamment invité les 2 parties concernées à un examen attentif et approfondi de la vision américaine. L'Arabie saoudite, elle, a apprécié les efforts américain. En fait, globalement, au sein des pays arabes, on assiste à la fin du consensus sur la question palestinienne. La cause palestinienne est en perte de vitesse. Les États, les monarchies du Golfe ont repris la domination régionale et ce qui les occupe désormais, c'est contrer la menace iranienne, ce qu'ils perçoivent comme une domination chiite sur la région. Alors oui, vous l'avez dit, Mahmoud Abbas sera à l'ONU la semaine prochaine, mais il n'a aucune chance de faire aboutir sa résolution contre le plan Trump, puisqu'il y aura un veto américain.
Dernière question finalement, Clotilde. J'évoquais tout à l'heure un moment de diplomatie surréaliste. Ça pourrait être finalement un moment d'histoire, mais enfin pas de la grande histoire pour les Palestiniens. Ce plan Trump, c'est la fin du rêve de 2 États sur la même terre.
Oui, effectivement, Donald Trump a en fait un peu liquidé la solution à 2 États. Israël conserverait sa majorité juive en écartant notamment Gaza de cet État unique, mais en annexant une grande partie de la Cisjordanie, puis peut-être à terme toute la Cisjordanie. D'ailleurs, les Palestiniens de Cisjordanie y sont préparés. Ils disent oui, annexez-nous, parce que finalement, ce serait une manière pour Israël de payer enfin le prix de l'occupation israélienne sur la Cisjordanie depuis plus de 50 ans. Et puis ils disent aussi que cela poserait un problème à Israël, puisque là, on se poserait la question de savoir si Israël est toujours une démocratie, avec des citoyens qui auraient la nationalité israélienne et puis les Palestiniens de Cisjordanie, dont on ne sait pas vraiment quel statut ils auraient.
Et la terre proprement palestinienne serait donc celle de Gaza. Vous nous avez proposé ce beau reportage, très loin évidemment du rêve de ce qu'était le partage de cette terre les plans de paix qui précédaient celui proposé par Donald Trump il y a 15 jours. Merci beaucoup Clotilde Mafraud pour Europe 1 d'avoir à la fois fait vivre la parole palestinienne et décrypté ce que le plan de paix de Trump pouvait avoir comme conséquence. À bientôt dans les carnets du monde.
Merci à vous.
Dans un instant, une autre jeunesse qui s'interroge sur l'avenir, la jeunesse anglaise, 10 jours après le Brexit.
Europe 1, les carnets du monde.
Les carnets avec vous, François Claus. Cette semaine, il est 13h17. On va prendre la direction de l'Angleterre, 10 jours après le Brexit.
Ils ont 20 ans à peine, on ne leur a pas demandé leur avis. La plupart n'ont même pas eu l'occasion d'aller voter. Ils ont la vie devant eux. C'est la génération mondialisée, ouverte sur le monde. Et paradoxe de l'histoire, ce sont eux qui vont devoir assumer cet improbable retournement de l'histoire vécu le vendredi 31 janvier. Le Brexit. Cette génération, qu'il est convenu d'appeler génération Brexit, va donc bel et bien devoir vivre avec un choix effectué très largement par les aînés, le choix de cette Angleterre aux frontières reconstituées. 10 jours après le choc, au carnet du monde, nous avons fait le choix d'aller à leur rencontre, d'écouter leurs paroles, leurs états d'âme. Direction l'Imperial College de Londres. C'est un reportage pour les carnets du monde signé Johanna Chabas.
À l'heure du déjeuner, la cour est pleine d'étudiants, comme dans n'importe quelle université. Mais en tendant l'oreille, l'anglais n'est pas la seule langue parlée dans la foule. On distingue des accents de l'allemand, du français, de l'espagnol, de l'italien. À Imperial College, 20% des élèves viennent de l'Union européenne, dont 700 français. Et donc, beaucoup de ces étudiants britanniques se sentent européens, comme Zoé, 20 ans. Pour elle et ses amis, le Brexit est une aberration. La jeune étudiante qui n'a pas pu voter en 2016, car trop jeune, ressent au quotidien un écart générationnel.
J'ai un oncle qui a voté pour le Brexit. Avec ma sœur, vu qu'on est plus jeune, on lui a demandé « Mais pourquoi t'as fait ça ?» C'est dommage, ça me fait vraiment peur parce que ce n'est pas ma décision. Nous les jeunes, on aime bien notre liberté, pouvoir faire des choses hors du Royaume-Uni, et j'ai l'impression que c'est une porte qu'on nous a fermée. Les gens ne savent pas exactement ce qui va se passer et on est la génération qui va devoir le découvrir.
Elle attend ses amis pour le déjeuner. Arrive sa camarade Hope, bonnet vissé sur la tête pour lutter contre le froid. Elle a 20 ans, elle étudie la guitare à l'université. En entendant son amie parler de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, elle veut dire un mot. C'est bien le futur impact du Brexit sur sa vie qui lui fait peur.
C'est ma génération qui va devoir vivre toutes les conséquences. Et c'est injuste parce que j'ai pas eu mon mot à dire alors que ça va plus me toucher que les gens plus vieux. Par exemple, je pensais faire mon master en Europe. Et maintenant, je ne sais pas si ça va être possible. Je reviens tout juste d'un Erasmus à Copenhague. C'est juste bizarre de revenir, d'avoir vécu cette expérience incroyable et de penser qu'ils ont dit « Ouais, non, on ne pense pas que ça vaut le coup ».
Elles partent dans la foule pour s'acheter à manger. Ici, chaque semaine, des stands de nourriture sont installés. De la cuisine italienne, espagnole, libanaise ou encore chinoise. L'université veut encourager ses étudiants à découvrir la cuisine du monde. Un vrai succès au vu des files d'attente de plusieurs mètres. Fria y travaille entourée d'Italiens pour arrondir ses fins de mois en vendant des pizzas. Mais cette jeune femme de 23 ans rêve de devenir actrice et est inquiète. Le Brexit met déjà sa carrière en danger.
Il y a plein de super opportunités pour jouer au théâtre en Europe, pas loin du Royaume-Uni comme à Bruxelles ou à Berlin. Et maintenant, ce n'est plus possible. Il y a plein de théâtres à Londres qui sont financés par des fonds européens qui vont maintenant être coupés, donc ils ne vont plus marcher. Mais aussi, on ne peut plus voyager là-bas pour promouvoir des pièces qu'on joue ici. C'est juste beaucoup plus contraignant. Tout est limité. J'ai déjà des camarades de classe, dès qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont dû rentrer dans leur pays. Ça craint. C'est déjà un énorme problème.
Une peur pour les étudiants artistes, mais aussi pour les scientifiques. Gabrielle, 21 ans, sort de cours. Elle est en dernière année de licence de biologie. Elle avait pu voter en 2016 en fêtant ses 18 ans quelques semaines avant le scrutin. Elle voulait rester dans l'Union européenne, car son avenir dans le domaine des sciences est compromis avec le Brexit.
Et c'est une des conséquences pour les étudiants scientifiques. C'est que maintenant, les masters, les thèses ou encore les financements auxquels je peux postuler sont très différents. On reçoit constamment des relances pour des programmes qu'on ne pourra plus suivre. Des gens qui étudient ici maintenant ne pourront plus le faire. Et c'est dommage parce que la science est par définition collaborative et elle dépend d'un partage international d'idées et d'un partage de connaissances. Donc le Brexit, c'est ce mur qu'on construit là où il ne devrait vraiment pas y en avoir.
Elle a décidé un peu forcée de rester au Royaume-Uni pour son master, mais elle espère pouvoir continuer à voyager dans l'Union européenne. Parce que pour tous les élèves rencontrés ici, malgré les contraintes, le Brexit ne veut pas dire une fin du sentiment européen. Pour Eve, 19 ans, étudiante en médecine, c'est même tout le contraire.
C'est presque comme un acte de vengeance. Ça m'a fait me sentir plus européenne qu'avant, maintenant qu'on a quitté l'Europe. Va te faire voir, Boris.
Je me sens toujours européenne,
qu'on soit dans l'Union ou pas.
Pour moi, l'Europe n'est pas l'Union européenne. Je veux garder des liens avec les peuples européens, avec des Français, des Allemands, des Espagnols. Ça ne va jamais changer, ça.
Tout sourire, elle avoue ne pas être trop inquiète pour la suite. Elle a une solution pour rester européenne. Son père est irlandais, elle va donc pouvoir demander la double nationalité. Avec le passeport de la République d'Irlande, elle pourra voyager dans toute l'Union européenne, comme si de rien n'était. Londres, Johanna Chabas, Europe 1.
Et nous allons repartir tout de suite pour Londres. Bonjour Johanna.
Bonjour François.
C'est vous qui avez évidemment réalisé ce reportage à l'Imperial College. Quand on dit, Johanna, que le vote pro-Brexit a été un vote de vieux, entre guillemets. Toutes les études d'opinion le confirment en Angleterre.
Ah bah oui, ça a été un raz-de-marée pour rester dans l'Union pour ces jeunes. Près de trois quarts des électeurs de moins de 24 ans ont dit non au Brexit. C'est un contraste énorme avec les générations plus âgées. 60% des plus de 65 ans ont voté pour partir. Et d'ailleurs, cette envie de la jeunesse de rester dans l'Union européenne s'est renforcée avec le temps. Un sondage sorti en 2018 demandait aux Britanniques ce qu'ils feraient en cas de deuxième référendum, deux ans après le premier, et donc avec de nouveaux jeunes en âge de voter. Le score du non au Brexit a atteint 82% chez les moins de 24 ans.
Oui, on voit cette fracture générationnelle. Lorsque vous avez parlé avec ces jeunes à l'Imperial College, Johanna, comment est-ce qu'ils expliquent, eux, ce mur générationnel ?
Alors, ils avaient tous leur propre théorie. Hein. Certains m'ont dit que c'était parce qu'ils étaient nés avec l'Union européenne, ils avaient pu profiter des avantages, comme des voyages, du programme Erasmus. Donc forcément, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient envie de perdre. Deux autres, Gabriel et Eve, m'ont aussi parlé de leur manière de s'informer. Elles voient leurs parents et grands-parents lire un seul journal, et souvent la presse ici est plutôt pro-Brexit, alors qu'elles m'expliquaient suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, donc avec plus de points de vue, plus de sources, et qu'elles pouvaient aussi aller plus rapidement sur Internet vérifier l'information, ce qui est quelque chose d'important quand on sait à quel point la campagne du Brexit a été marquée par les fake news.
Oui, effectivement, c'est une explication intéressante. Précisons quand même, vous étiez à l'Imperial College, Johanna, au cœur de Londres, du Londres cosmopolite. Est-ce qu'on n'a pas une photographie un petit peu biaisée? Je pense aux régions plus reculées, plus industrielles du nord de l'Angleterre, où il y aurait une jeunesse qui finalement souscrirait également aux arguments des plus âgés.
Alors oui, évidemment, là c'est une université très axée à l'international, avec des élèves qui ont les moyens de s'offrir des études qui coûtent très cher et qui sont quasi certains d'avoir un avenir plein de réussite. Mais il existe bien un autre type de jeunesse dans les régions plus pauvres du Royaume-Uni, des régions majoritairement pro-Brexit, comme dans les Midlands ou au nord-est du pays. Là-bas, le taux de chômage est à près de 6%, c'est le pire du pays. Donc les jeunes sont plus désabusés dans ces zones désindustrialisées, beaucoup moins cosmopolites et où leur avenir professionnel est incertain. L'Union européenne est souvent présentée comme la raison de leur malheur et donc le discours des pro-Brexit qui promettent du renouveau et des investissements dans la région les a évidemment attirés.
Merci beaucoup Johanna de toutes ces précisions. C'était notre reportage sur cette génération des jeunes Anglais qui vont vivre donc un Brexit largement voté par leurs aînés. À très bientôt Johanna dans les carnets du monde.
À bientôt François.
Et dans un instant, ce Brexit pourrait faire un très beau thème de littérature. Nicolas Caro, un livre dans le monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et on continue à feuilleter ces carnets avec vous, François Claus, jusqu'à 14h sur Europe 1. C'est l'heure maintenant d'un livre dans le monde, une autre manière de voir le monde changer à travers le regard des écrivains. Et c'est avec, bien sûr, Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour François.
Cette semaine, vous nous emmenez, Nicolas, en Amérique avec un auteur que vous avez rencontré cette semaine.
Oui, l'auteur, c'est Stéphane Merrill Bloch. Il signe Le Noir entre les étoiles chez Albin Michel. Stéphane Merrill Bloch vit à Brooklyn maintenant, mais il est né et a vécu longtemps au Texas, dans la banlieue de Dallas, et c'est là que se déroule son roman. L'histoire est assez terrible, c'est l'histoire de la famille Loving. Oliver, le fils, a été grièvement blessé lors d'une fusillade dans son lycée. Un jeune type s'est pointé avec une carabine, on connaît ça par cœur. Il a tué plusieurs personnes dans le lycée, on ne sait pas trop pourquoi, et puis il s'est suicidé.
Mais Oliver, lui, le héros, n'est pas mort.
Non, il a survécu à ses blessures, mais il est plongé dans le coma, et les médecins passent leur temps à étouffer les espoirs de sa mère, Eve, persuadée qu'il va revenir à la vie. Nous sommes 10 ans plus tard quand commence le roman, et on observe à la fois donc Eve, la mère, Jed, le père, devenu complètement alcoolique, et puis il y a Charlie aussi, le deuxième fils, qui a fui tout ça en se réfugiant à New York. Ce sont des âmes perdues. Tout tourne autour de ce drame dont il n'arrive pas à se relever, comme Eve par exemple, qui vole très régulièrement des livres dans les magasins parce qu'Oliver est fan de science-fiction. Stéphane Merrill Bloch.
Pour moi, la signification, c'est que la vie lui a tout pris. Et elle a besoin de prendre quelque chose en échange. Elle vole ses livres pour lui comme si elle préparait son retour. Parce que cette foi dans son retour, c'est la seule chose qui l'a fait continuer à avancer.
Et pourtant, Nicolas, il n'y a aucun espoir.
Oui, enfin, jusqu'à ce qu'un chercheur propose d'utiliser un nouveau modèle d'IRM beaucoup plus précis pour scruter le cerveau d'Oliver. Et là, on se rend compte que l'activité est telle qu'il serait peut-être éventuellement possible de communiquer avec Oliver. Peut-être encore un espoir qui pourrait être déçu. Stéphane Mary-Bloch s'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a quelques années, en Belgique, un jeune garçon était plongé dans le coma. Un examen a conclu qu'il était enfermé dans son corps, mais conscient de tout. Pour communiquer, une sorte de thérapeute un peu gourou a déclaré qu'elle pouvait ressentir les réponses du jeune garçon en lui tenant la main. Donc on l'a interrogé, on lui a demandé comment il allait, etc. Et on écoutait les réponses transmises par la thérapeute jusqu'à ce qu'un médecin un peu sceptique décide de vérifier par lui-même. Et il s'est avéré que, de bonne foi ou non, la technique de la thérapeute ne fonctionnait pas du tout.
On comprend bien, Nicolas, c'est un livre sur l'enfermement dans tous les sens du terme.
C'est aussi un livre sur ça, mais c'est d'abord un livre sur la violence, celle du Texas et de l'Amérique.
Il y a 20 ans, une tuerie de masse comme ça était quelque chose d'extrêmement rare. Et maintenant, ça fait presque partie des clichés sur la vie en Amérique. C'est un nouveau phénomène. Mais c'est en même temps relié à la manière dont les hommes blancs ont toujours assuré leur domination sur le territoire américain. C'est-à-dire par la violence. Et puis, il y a le mythe au Texas du cow-boy. D'une certaine manière, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais d'une certaine manière, c'est un homme blanc qui essaye de contrôler les choses par la violence.
Et on sent bien dans la grande tradition de la littérature américaine, c'est une manière de raconter le pays et ses enjeux, Nicolas.
Exactement, c'est une sorte de certaine histoire de l'Amérique, et en plus d'être un très bon roman du point de vue de l'histoire et de la construction du récit.
Alors ça s'appelle donc Le Noir dans les étoiles. Le titre original est totalement différent. Hein.
Oui, c'est le nom du héros, Oliver Loving.
De Stephen Merrill Bloch chez Albin Michel. Traduction.
Traduction de Marina Borazzo.
À dimanche prochain, Nicolas.
À dimanche.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Et la troisième étape de notre tour du monde hebdomadaire nous emmène maintenant en Allemagne, François Claus.
En Allemagne, où l'on pourrait pratiquement parler de la guerre du charbon, même si l'actualité de la semaine a été dominée par la crise politique dans le Thuringe, sur fond de montée de l'extrême droite, cette actualité du charbon est absolument fondamentale parce qu'elle divise profondément le pays et elle recoupe évidemment des enjeux bien au-delà de l'Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante en Allemagne où l'on a vécu cette semaine deux événements qui ne sont pas sans rappeler ce qu'a été la mobilisation de la jeunesse allemande des années 70 contre le nucléaire. On a eu d'abord l'occupation d'une centrale qui devait être inaugurée en Rhénanie et puis une assemblée générale du géant économique Siemens en milieu de semaine qui s'est transformée en véritable happening militant. Donc on va essayer de comprendre ce qui se joue avec vous, Hélène, sur cette question du charbon. Le charbon, l'Allemagne y est encore en grande partie accro, Hélène.
Oui, effectivement. Alors, on regarde les chiffres. Je pense que c'est important de les donner avant de commencer. Pour le mois de janvier dernier, les énergies renouvelables ont couvert exactement 47,7% des besoins allemands. Le nucléaire, 12,2%. Et bel et bien le charbon, houille et lignite confondus, 26,2%. C'est donc encore un gros quart de l'énergie consommée en Allemagne.
Oui, mais ce quart-là, il a évidemment beaucoup plus de poids parce que c'est profondément polluant en termes de CO2.
Oui, et donc d'où cette mobilisation sans relâche des activistes anti-charbon ici. C'est pas un combat vraiment très nouveau, mais c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, il est devenu la clé de voûte, si vous voulez, des mobilisations écolo, le point de convergence de plusieurs mouvements, avec des slogans qui sont désormais archi connus partout dans le pays. Écoutez ça.
What do we want? Climate justice! When do we want it? Oh! Are we gonna fight for it? Are we gonna get it?
Yes!
Call it!
Stop!
Call it!
Stop!
Call it!
Stop!
Et puis il y a aussi cette chanson qui n'est pas seulement un tube dans les cours d'école, écoutez.
Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden.
Auf die Barrikaden, le c'est pas vraiment juste. Hein, mais enfin, ce qui est surprenant, c'est que ce sont littéralement des enfants là, qui chantent.
Oui, ce sont des ados, en l'occurrence des militants de Fridays for Future, très actifs ici. Greta Thunberg est venue plusieurs fois à leurs manifs qui ont lieu tous les vendredis depuis plus d'un an maintenant. Au-delà de ces jeunes, en fait, la lutte contre le charbon est devenue une sorte de pop culture ici qui fédère et aussi qui suscite beaucoup de passion. C'est difficile d'avoir des débats sereins sur la question.
Et on l'a bien vu donc avec cette occupation que j'évoquais d'une assemblée générale du géant économique Siemens à Munich. Siemens qui ne fait pas normalement dans le charbon.
Oui, mais tout s'est accéléré en décembre avec les grands incendies en Australie car le groupe de Munich participe actuellement à un gigantesque projet de mine de charbon en Australie. La mine Adani qui sera la plus grande du monde et dont l'exploitation va durer 60 ans. Alors certes, Siemens a juste un mini contrat dans cette mine, hein, 18 millions d'euros pour faire la signalisation des trains qui transporteront les minerais extraits. Donc c'est symbolique, mais c'est important, nous explique cette jeune manifestante.
Moi, ce que je ne comprends pas, et je voudrais bien poser la question au patron de Siemens et à tous ses salariés, c'est comment ils font pour vivre alors qu'ils sont tous conscients que ce type de projet va faire des dégâts pendant des années.
Oui, alors on entend ça et pourtant on est étonné parce que Siemens fait partie, là, et notamment dans le domaine des éoliennes, d'une entreprise plutôt vertueuse, Hélène.
Oui, le groupe a même une stratégie de neutralité CO2 assez audacieuse, à brève échéance, 2030 au maximum, et s'engage bel et bien, vous avez dit, dans des projets verts. Et il a même proposé à la Greta allemande d'entrer dans son cabinet d'experts pour le climat. Alors, elle s'appelle Luisa Neubauer, 23 ans, et elle a décliné cette proposition à cause notamment du projet en Australie. Elle veut confronter l'entreprise à sa propre parole, à ses propres engagements.
Au moment où les entreprises envoient des signaux pour dire qu'elles ont compris où était leur responsabilité, à ce moment, nous leur tendons un miroir et nous exigeons qu'elles fassent leur devoir jusqu'au bout et qu'elles réfléchissent bien avant d'investir. Siemens n'a absolument pas besoin de fournir ce système de signalisation pour la mine Adani. Et pour la laisser tomber, Siemens le sait bien et c'est pour cela que nous sommes là, pour leur rappeler.
Alors sous l'impulsion de Luisa, Siemens est devenue en quelques semaines la bête noire des jeunes Allemands. Ils ont organisé plus de 60 blocages sur les sites de production ici en Allemagne. Ils ont aussi réuni 300 000 signatures pour une pétition. Et mercredi, donc à Munich, ils sont venus perturber l'AG des actionnaires. Alors depuis l'extérieur du bâtiment avec leurs tambours et leurs slogans, là vous les entendez par exemple. Et puis, ils ont aussi réussi à prendre la parole à la tribune grâce au soutien de certains actionnaires qui leur ont cédé leur temps de parole et leur voix aussi lors des votes.
Oui, des actionnaires donc responsables, il en existe également. On a du mal à comprendre pourquoi Siemens s'accroche à ce projet, Hélène, vu comment il est destructeur pour son image. Et après tout, 18 millions d'euros pour Siemens, c'est rien.
Alors en fait, c'est là que l'écologie que beaucoup d'Allemands portent dans leur cœur se heurte en fait à un autre trait de caractère très très allemand lui aussi, c'est le respect de la parole donnée et le respect des contrats. Pour le PDG de Siemens, Joe Kaeser, il en va de la crédibilité de son entreprise. Elle s'est engagée à fournir ce produit pour la mine et déchirer le contrat, ce serait à ses yeux dévastateur pour l'image de la fiabilité de Siemens et de ses employés.
Si cela avait été mon entreprise, mon argent et mon risque personnel de faillite, j'aurais peut-être dit très bien, on arrête. Mais j'ai un devoir vis-à-vis du groupe.
Et Luisa lui réplique que d'autres engagements ont été pris et à une autre échelle.
Nous avons besoin d'élargir le cadre de la photo et prendre de la perspective. Et là, nous constatons assez vite que ce projet Adani ne peut pas voir le jour car il compromet les accords de Paris. Et ça veut dire que chaque entreprise qui participe à ce projet précis en Australie contribue à ce que l'accord de Paris échoue et en sera tenu responsable.
Ah oui, on comprend effectivement cet argument. Et c'est cette question des engagements, Hélène, qui explique aussi la volonté d'ouvrir, alors qu'on veut arrêter le charbon, une nouvelle centrale en Rhénanie.
Oui, effectivement, et on va beaucoup entendre parler de cette centrale dans les prochains mois parce que les occupations ne font que commencer. Elle est ultra moderne, on l'appelle Datteln 4, elle émettra 13% de CO2 en moins que ses grandes sœurs qui tournent déjà. Alors voilà pourquoi le projet avait reçu le feu vert des autorités il y a quelques années. Sauf que maintenant, la décision a été prise le 29 janvier dernier. En 2038, au plus tard, peut-être même 2035, l'Allemagne devra avoir éteint toutes ses centrales au charbon. Donc au mieux, Datteln 4 va tourner 18 ans, mais c'est l'Allemagne, le contrat, c'est le contrat, nous dit le gouvernement. Et voilà comment le débat devient assez vite hystérique ici. Au pays du compromis, en fait, le charbon fait exception.
Est-ce que vous pensez, Hélène, que le gouvernement pourrait sur le charbon lâcher comme il a fini par lâcher sur le nucléaire, finalement ?
Eh bien, en fait, non, parce que quand on regarde, en fait, quelles sont les toutes dernières régions qui dépendent du charbon en Allemagne, eh bien, c'est vraiment minuscule et ça se trouve Figurez-vous, là où l'extrême droite fait ses plus grands scores, c'est la région de la Lusace, à la frontière avec la Pologne. Et là, la situation est politiquement explosive. Ce sont des régions de l'ancienne RDA qui traversent une profonde crise d'identité. Et donc, leur retirer le charbon très vite pourrait vraiment souffler sur les braises. Et c'est pour ça que le gouvernement marche sur des œufs. Il ne veut absolument pas rater la conversion, la reconversion économique de ces régions.
Et on comprend comment cette actualité du charbon que nous avons choisi d'illustrer dans les carnets du monde rejoint la grande actualité politique de cette semaine en Allemagne. Merci beaucoup Hélène Kohl.
À bientôt.
Et à suivre dans les carnets du monde un grand voyage dans le monde arabe, un voyage tout en dessin.
Europe 1, les carnets du monde.
Chaque dimanche de 13h à 14h sur Europe 1, écoutez Le Monde changer avec ces carnets du monde qui s'achèvent à présent avec un voyage en images. François Claus.
Et les centaines de milliers de lecteurs passionnés en France par les tribulations d'un petit enfant arabe dans la Syrie de Hafez al-Assad. On a bien sûr reconnu l'arabe du futur, véritable triomphe éditorial signé Riyad Satouf. Ses auditeurs vont tendre l'oreille, car pour clore notre tour du monde hebdomadaire, les carnets vous proposent maintenant un grand voyage dans le monde arabe. Voyage singulier qui va suivre les traits des dessins, de la bande dessinée et du roman graphique, car oui, de Beyrouth à Rabat, du Caire à Alger, renouant finalement avec la grande tradition graphique arabe, la bande dessinée y est bel et bien devenue un art majeur. Elle accompagne depuis 2011 les grands mouvements de la société qui bouleversent ce monde arabe. Elle est portée par une nouvelle génération de jeunes talents particulièrement créatifs. Ils ont pour nom Mazen Kerbaj à Beyrouth, Zeynab Fasiki à Fès ou Nîmes du côté d'Oran. Nîmes que nous sommes heureux d'accueillir dans les carnets du monde. Bonjour Nîmes.
Bonjour, je suis très heureux d'être ici.
Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous venez d'être primé la semaine dernière à Angoulême. C'était le prix du courage artistique. Et vous êtes, Nîmes, passé directement de la case prison à celle du tapis rouge du grand festival de la BD d'Angoulême.
Exactement. Donc, moi, je suis en fait dessinateur en Algérie. Jusque-là, je dessinais, avant les manifestations qui sont produites là, il y a une année, je dessinais en fait et je m'inspirais de tout ce qui se passait autour, enfin, dans mon quotidien et tout ce qui a un rapport avec l'Algérie. Enfin, c'est les aléas d'un dessinateur en Algérie, quoi. Et à partir du moment où il y a eu les événements, les grosses manifestations, du coup, c'était tout à fait normal pour moi
de les accompagner avec votre plume.
De dessiner, donner mon point de vue.
Et ce point de vue gêne le pouvoir, car vous vous êtes retrouvé en prison. Vous nous raconterez tout à l'heure justement votre histoire. Mais je vous propose tout de suite une étape vers la ville du Caire. Le Caire où finalement la bande dessinée et son histoire résument bien ce que je disais à l'instant. Elle a été à la fois l'illustration du foisonnement créatif, si plein d'espoir, du soleil de la place Tahrir au printemps 2011 jusqu'aux caves de la dure répression militaire en 2020. C'est un reportage pour les carnets du monde signé Ariane Avrieux.
Basma Raled a 26 ans, son frère Mohamed 30 ans. La première écrit, le second dessine. Et ses deux complices viennent de terminer leur premier roman graphique, histoire d'une petite fille dotée de pouvoirs magiques.
Noura a 9 ans, elle ne va pas à l'école. Et son oncle veut utiliser ses dons pour faire de la sorcellerie.
Là, sur cette planche, il vient vers elle et elle s'enfuit immédiatement pour rentrer dans le pigeonnier.
Au départ, elle ne sait pas qu'elle a des pouvoirs. Et puis, petit à petit, elle réalise qu'elle peut, par exemple, se soulever au-dessus du sol, voler.
On a tenté de construire un personnage de super-héros un peu tragique. Quand j'étais enfant, mes parents ils me donnaient 15 centimes d'argent de poche pour les transports quotidiens, pour aller à l'école. Je les économisais pour m'acheter Tintin ou encore Astérix et Obélix. Et ça me permettait de créer en fait un espace de liberté, loin de la réalité, parce qu'on venait d'un quartier pauvre.
C'est le cas aussi de Noura, leur super-héroïne qu'ils ont ancrée dans une réalité très égyptienne, la cité des chiffonniers, où des montagnes de poubelles sont triées à l'intérieur même des maisons.
Je pense que la bande dessinée peut vous aider à digérer des idées. Et le quartier des chiffonniers permet de représenter toute l'Égypte. C'est vraiment pauvre et tout le monde peut s'identifier. On a envie d'en sortir comme en fait on a envie de quitter l'Égypte.
Dessiner la vie quotidienne, sa noirceur, l'explosion des inégalités, c'est une des caractéristiques de cette nouvelle BD née après la révolution qui a renversé le dictateur Moubarak il y a près de 10 ans. Et c'est encore une fratrie, les jumeaux, moi Mohamed et Essam Seyte, qui ont créé les premiers ateliers et festivals en Égypte.
Après la Révolution, on a vu que plein de gens étaient intéressés par la bande dessinée, le graffiti et le dessin en général.
C'était pas juste une révolution politique, mais aussi artistique. Vous pouviez le voir dans les théâtres, sur les murs, donc c'était le moment de faire quelque chose.
À ce moment-là, on avait 24 ans et on a voulu créer un nouveau concept de bande dessinée, parce qu'avant, c'était juste pour les enfants. Donc on voulait s'adresser aux adultes. La BD doit les ramener à la réalité et non pas s'en échapper. La BD, c'est pas juste rigolo, c'est aussi pour exprimer ta condition sociale, politique, ta religion, ton sexe. Donc c'est ça qui nous a motivés à créer un collectif d'artistes qui dessinaient dans les rues du Caire, en live et autour de ce concept. Mais on a arrêté de se réunir depuis 4 ans parce qu'on n'a pas l'autorisation, et comme on est près de 200, ça serait vu comme une manifestation.
Avec le retour au pouvoir de l'armée, tout rassemblement, même artistique, dans l'espace public est interdit. Et pour trouver le magazine qu'ont créé les jumeaux, il faut descendre au sous-sol d'un immeuble, dans le salon de thé room, chambre en anglais, un repère de la jeunesse cultivée que dirige le trentenaire Ahmed Zidane.
On a pas mal de clients qui tombent dessus par curiosité, feuillettent quelques pages de ces bandes dessinées. Ça leur plaît et ils achètent un numéro. C'est un processus très lent et limité de distribution. Mais depuis que des gens savent qu'il y a 2 ou 3 points de vente au Caire où ils peuvent trouver leur magazine dessiné préféré, alors, ils reviennent pour ça souvent. C'est une nouvelle culture qui grandit doucement, mais sûrement.
Les deux magazines de bande dessinée vendus dans son café restent confidentiels à l'échelle de l'Égypte, avec un tirage d'environ 1500 exemplaires chacun dans une mégalopole de 20 millions d'habitants. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Nîmes, j'imagine que dans ce reportage au Caire, et vous êtes un peu reconnu, vous l'Algérien.
Ah bah oui, tout à fait. Hein. Et puis surtout quand ils disent au départ, le dessin c'était pour les enfants et tout ça. Là, avec les manifestations, avec les révolutions qui sont passées, une grande partie de la population s'est rendue compte du pouvoir en fait, de la bande dessinée et du dessin de presse en général.
Et à quoi vous attribuez finalement que ce dessin devienne, dans tout le monde arabe, de Beyrouth à Rabat, comme je l'évoquais tout à l'heure, aussi populaire, parce qu'il a su accompagner le mouvement de la société et finalement le mouvement politique qui aujourd'hui ébranle ces sociétés?
Ah oui, oui, bien sûr, c'est l'illustration de ce que pensent les gens.
Et vous, l'Algérien, qui a collaboré pendant plus d'un an au grand journal Al-Watan, vous étiez dessinateur dans le supplément du week-end, cette presse algérienne très libre, très irrévérencieuse par moments, elle a finalement préfiguré ce mouvement dont on va fêter les 1 an dans quelques jours, le Hirak.
Exactement, oui. Alors, c'est moi, quand je travaillais sur Al-Watan, c'est vrai que j'avais une très, très grande liberté. Il n'y avait aucune censure. D'ailleurs, j'étais le premier à être un petit peu surpris, parce que ce n'est pas l'idée que je me faisais. Je m'attendais à chaque fois à avoir peut-être des petites censures. Alors, là, pas du tout. Ça a été très, très libre.
Jusqu'au moment, jusqu'en novembre dernier, où vous produisez un dessin. Alors, je vais renvoyer mes auditeurs sur le site d'Europe 1, notamment l'onglet Carnet du Monde. Il y a un lien qui va à Nîmes vers votre blog où l'on verra ce dessin. Vous pouvez nous le décrire en deux mots, ce dessin qui a ulcéré le pouvoir, puisqu'au petit jour, des forces de l'ordre sont venues chez vous, vous ont arrêté et exactement, vous allez être condamné. C'est un dessin qui résumait finalement ce que la rue, à ce moment-là, contestait.
Exactement. Donc moi, en fait, ce que je commençais à faire à un moment donné, c'était de vraiment illustrer sans rien écrire et qu'on comprenne tout par le dessin. Et c'est à ce
moment-là,
la valeur
universelle du dessin. Hein.
Exactement. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé vraiment à avoir beaucoup, beaucoup de succès auprès des manifestants. Donc là, pour ce dessin, j'avais illustré les 5 candidats à l'élection présidentielle avec le chef d'État d'armée qui met une chaussure de verre au candidat qui est devenu finalement président. Donc finalement...
La chaussure de Cendrillon.
De Cendrillon. Donc ce dessin-là, je l'avais fait un mois et demi avant les élections. Et c'était ce qui s'est produit d'ailleurs. Le résultat m'a donné raison. Et du coup, un matin, j'ai eu 8 personnes en civil qui ont débarqué dans mon atelier, dans mon agence d'illustration, qui ont embarqué tout le matériel numérique et puis m'ont embarqué avec eux.
Et il y a eu un procès, car il y a un délit en Algérie qui est un délit d'offense au pouvoir, et c'est ce délit qui a été retenu contre vous, qui vous a poussé à être condamné à un an de prison, dont trois mois ferme.
Dans trois mois ferme, j'ai fait un mois de prison, enfin un mois et une semaine. Et puis, voilà, j'ai été relâché.
Sous une forme de pression quand même, parce que j'imagine qu'il y a eu du côté d'Oran énormément d'émotions après un tel procès.
Ah oui, oui, non, mais pas rien que du côté d'Oran, c'était toute l'Algérie qui... En fait, quand je suis sorti, j'ai vraiment réalisé l'ampleur du truc, parce que quand on a commencé à toucher à la liberté d'expression, il y a eu un soulèvement, mais une solidarité vraiment sans précédent, qui m'a beaucoup touché d'ailleurs.
Et finalement, d'être récompensé, primé par ce prix du courage Angoulême, et pour vous une manière aussi de célébrer ce qu'est votre combat, votre métier et votre combat.
Ben oui, c'est une reconnaissance, j'en suis vraiment vraiment très très honoré, surtout que ça se passe à Angoulême. Pour moi, c'est une ville qui a beaucoup de sens, c'est la ville internationale de la bande dessinée.
La bande dessinée est bien plus qu'un simple 9e art, on l'a compris, pour vous c'est une manière de participer au mouvement de la société.
Exactement, c'est une manière de s'exprimer. Et puis ça, moi, mes dessins, quand je les publie, je les mets juste sur ma page et je suis toujours surpris de les voir partout dans les manifs. C'est-à-dire que les gens, ils sont très, très attentifs à ça.
Et le combat va continuer.
Et bien sûr, le combat va continuer.
Alors qu'on va fêter le début de cette révolte inédite dans l'histoire algérienne, le Irak, il y a un an déjà. Il y a un pouvoir qui est tombé, mais il n'y a pas encore un nouveau pouvoir qui est arrivé en Algérie.
Bah oui.
Merci beaucoup, Nîmes, d'être venu dans les carnets du monde. Et je voudrais dédier cette séquence, vous le connaissez peut-être, à un monsieur Ali Ferzat, oui, dessinateur syrien. En 2011, les nervis du pouvoir lui ont coupé les deux mains parce qu'il osait dessiner. Et on va lui rendre un petit peu hommage à travers cette rubrique. Je renvoie donc votre blog sur le site des carnets du monde, sur le site d'Europe 1. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Et nous allons terminer ce tour du monde hebdomadaire, comme toutes les semaines, avec notre étape en Outistan. Il a sa manière à lui de regarder le monde, il le décrypte avec sa casquette de philosophe, avec sa casquette d'autiste Asperger et avec sa casquette de grand voyageur. C'est bien sûr Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour François, bonjour à tout le monde.
Je parlais du voyageur en vous et nous allons nous intéresser à la question du nomadisme aujourd'hui. On est effectivement dans ce monde de l'hypermobilité, de la mondialisation. Tous les Occidentaux rêvent d'un ailleurs, ils le disent, et si on allait s'installer dans un autre pays ? Derrière ce rêve, il y a une réalité et elle n'est pas forcément facile à vivre. Vous pouvez en témoigner de votre côté, Joseph.
Oui, déjà, tout simplement, beaucoup de pays et de contrées du monde n'ont pas de procédure pour accueillir définitivement les étrangers. La seule idée en paraît surréaliste. Je me souviendrai de quelques-uns de ces moments où le sujet tabou est soudain mis sur le devant de la scène. J'ai fait pendant un peu plus de 3 ans des cours de langue éthiopienne, amharique pour les intimes. J'avais bien entendu noué une relation forte avec les enseignants, avec le petit groupe d'étudiants. Cette ambiance extraordinairement chaleureuse se nourrissait d'une passion commune pour l'Éthiopie. Il était constamment question de trésors culturels, de choses à découvrir, à apprendre. L'une de mes professeurs était une dame fort raffinée et cultivée. Une fois en cours, me laissant porter par le rêve, j'avais hasardé l'idée de vivre en Éthiopie. Soudain, la prof s'est arrêtée, son sourire s'est figé, elle m'a fixé des yeux, elle a murmuré « Ne croyez surtout pas que l'on accepte accepterait que vous épousiez une Éthiopienne. » Alors, silence gêné de ma part, car dans mon esprit, il n'était pas question de mariage. J'avais compris que l'enthousiasme culturel pour l'Éthiopie n'était qu'une rêvasserie par rapport à la dure réalité de la différence entre les groupes humains, eux et nous.
Et différence culturelle, d'autant plus, Joseph, que dans d'autres pays, il y a des procédures assez singulières. Et quand on dit procédure, ce n'est pas forcément des procédures administratives.
Oui, tout à fait. Et parlant de cela, l'exemple de Jérôme me vient à l'esprit. Jérôme, un ami jeune universitaire français que j'avais beaucoup fréquenté pendant mes séjours en Iran. Et oui, la chose est peu connue, mais il y a des exilés français en Iran. Et Jérôme m'avait raconté comment il avait immigré en Iran. Pour s'établir définitivement là-bas, Jérôme a dû affronter 2 épreuves. Premièrement, déjeuner avec un haut fonctionnaire et deuxièmement, exprimer son vœux d'immigration par écrit dans une lettre manuscrite. Alors, on dira rien de plus simple. Mais attention, cette façon de faire est bien plus subtile qu'il n'y paraît. Durant le repas, on voit tout de suite si l'étranger connaît les innombrables règles de politesse à l'iranienne, le ta'aruf, comme on dit. Ce qu'il mange, comment il mange, s'il prie ou pas. Quant à la lettre, c'est pire encore. Écrire une lettre avec mille et une tournures et citations fleuries du beau persan, c'est une tâche des plus ardues. Quand on songe qu'il soit nécessaire de la calligraphier, voilà à peu près une chose impossible pour un étranger.
Et Joseph, vous êtes d'autant bien placé pour en parler, c'est que vous-même, vous vivez en ce moment cette expérience de nomadisme, même si ce n'est pas forcément dans un pays très lointain, mais qui est quand même très différent d'une autre, la Belgique.
Et oui, je m'installe au moins partiellement en Belgique. Alors qu'on se le dise, il s'agit sans doute de l'immigration la plus facile qui soit. D'ailleurs, quand je mange avec mes amis belges, ils me considèrent déjà comme belge. Mais face à l'administration, on reste un étranger, avec les appréhensions et les craintes. D'une certaine façon, immigrer, c'est une expérience à faire au moins une fois dans la vie. Et je crois de plus en plus que c'est à la manière d'accueillir l'étranger que pourraient être jugées les sociétés humaines.
Juger une société à la manière dont elle accueille l'étranger, c'est sur cette très belle réflexion que s'achèvent les Carnets du Monde ce dimanche. Merci beaucoup Joseph et à dimanche prochain.
Merci, à tantôt.
Ainsi s'achève notre voyage dans les Carnets du Monde avec, comme tous les dimanches, Florence Gimalac à la production et Marc Fréjean à la réalisation. Dimanche prochain, ce sera au tour de Rémi Botsaron de prendre le micro. En attendant, Nicolas Carreau, je vous ouvre la voie est libre.
Merci François, nous on va se balader en terre du milieu, vous savez c'est la terre inventée par Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. L'exposition à la BNF va bientôt se terminer, donc on a décidé de se refaire la balade.
La voie est libre, c'est dans un instant sur Europe 1.